Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Yves Decan. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy côte à côte au plateau des Glières pour un hommage aux résistants de 1944. Le président de la République salue la leçon de courage qu'ils nous ont donnée. Une bonne occasion de se rassembler pour son lointain prédécesseur. Aidez-nous à faire vivre la démocratie en devenant notre banque. La France Insoumise lance un emprunt auprès des Français pour financer sa campagne des européennes. Le parti de Jean-Luc Mélenchon espère collecter plusieurs centaines de milliers d'euros. La rencontre du pape François et du frère Jean-Pierre au Maroc. Le souverain pontife qui célébrait la messe à Rabat est allé saluer l'unique survivant du massacre de Tibéirine, aujourd'hui âgé de 95 ans. Le stade toulousain en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Toulouse qui l'emporte d'un tout petit point face au Racing 22-21. La fête à Strasbourg pour le retour des joueurs vainqueurs de la Coupe de la Ligue hier. Ce dimanche en Ligue 1, victoire à l'instant de Lille face à Nantes 3-2. Cet après-midi, victoire de Nice à Dijon 1-0, de Caen à Monaco 1-0, match nul entre Amiens et Bordeaux 0 partout. Ce soir, le PSG est à Toulouse. C'est le Belge Thierry Neuville qui remporte le rallye de Corse devant Sébastien Ogier. Le journal des sports dans un instant, c'est avec Vincent Pellegrini. Et puis la météo en avril ne te découvre pas d'un fil à l'ouest et dans le sud-ouest. Partout ailleurs, le temps restera clément et les températures partout confortables.
France Inter.
Plus de noms, plus de familles, plus de différences. Une fois tombé, chacun s'appelait la France. Quand le président de la République fait des vers aux Glières, dans son hommage aux résistants morts au combat à la fin mars 44, il y a 75 ans, sur ce plateau du massif des Bornes, en Haute-Savoie, le chef de l'État a salué le sacrifice, la leçon de courage de ces hommes, un peu plus d'une centaine, inhumés là sous la nécropole nationale de Morette. Des chasseurs alpins dans leur uniforme blanc, des anciens combattants, des enfants qui reprennent en cœur le chant des partisans. Pour cette commémoration solennelle, Emmanuel Macron avait convié l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, qui lui-même avait pris l'habitude de venir aux Glières chaque année de son quinquennat. L'occasion d'afficher en ce lieu symbolique de la résistance, d'afficher aussi l'unité de la nation, comme l'a souligné l'ancien président au micro de Yannick Falt.
Moi, je ne viens pas avec Emmanuel Macron, je viens avec le président de la République. Et il avait la très bonne idée de venir pour célébrer lui-même le 75e anniversaire. Il a eu la gentillesse de me convier. Il n'y avait aucune raison que je refuse, bien au contraire. D'ailleurs, je pense que les occasions de rassemblement, au-delà des différences des uns et des autres, sont si rares en ce moment. C'est une belle occasion de se rassembler autour du souvenir de nos héros, ceux qui sont morts ici, très jeunes, dans des conditions épouvantables, il y a 75 ans, et qui font que aujourd'hui, on peut être libre. Y avait-il une seule raison pour refuser ? Refuser aurait été indigne de la mémoire et du souvenir.
Pour afficher une vraie communion nationale du point de vue de Jean-Louis Debré, il manquait François Hollande. Pour l'ancien président du Conseil constitutionnel, les deux présidents actuels et passés qui ont besoin l'un de l'autre ont pris prétexte de cette journée pour faire de la politique. Et c'est ce que fait aussi François Hollande, justement, dans un entretien aux Parisiens, celui dont Emmanuel Macron fut le conseiller et le ministre, tacle aujourd'hui son successeur sans prendre de gants. Diriger la France, explique François Hollande, est un exercice difficile qui suppose de bien comprendre notre pays. Le résultat au bout de 2 ans n'est bon ni pour la vitalité économique ni pour la cohésion sociale. Et d'ajouter qu'à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. François Hollande, qui publie mardi en édition de poche une version augmentée de son livre « Les leçons du pouvoir », il sera ce jour-là l'invité de la matinale sur France Inter. Rassembler tous les progressistes d'Europe, c'est le vœu de Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, invité ce midi de questions politiques sur France Inter. Il lance un appel aux sociaux-démocrates pour constituer au lendemain des européennes un groupe central au Parlement, un groupe qui rassemblerait au-delà des libéraux et des démocrates et qui pourrait gouverner l'Europe. À propos d'Europe, une campagne pour financer la campagne, c'est un appel aux dons et à l'emprunt que lance le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, une campagne d'emprunt populaire auprès des Français qui seront bien sûr remboursés au bout d'un an. Car la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût, comme l'explique à Cyril Graziani le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud.
Aujourd'hui, il y a un vrai problème démocratique dans notre pays qui est le financement des campagnes électorales qui dépendent du bon vouloir des banques. Pour la France insoumise, nous avons des difficultés à obtenir des réponses des banques qui mettent énormément de temps. Et donc, aujourd'hui, notre campagne, elle fonctionne grâce aux dons des volontaires. Et là, l'idée d'aujourd'hui, c'est de lancer un emprunt populaire, c'est-à-dire de dire aux Françaises, aux Français, soyez notre banque, financez notre campagne et nous vous rembourserons d'ici un an. C'est un moyen citoyen de faire de la politique et de s'assurer que la démocratie fonctionne dans notre pays. Nous ne pouvons être les otages des banques ou des grands partis qui ont les moyens. Et d'ores et déjà, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros de prêts que nous avons récoltés aujourd'hui.
Un formulaire d'emprunt est à remplir sur le site du parti qui dit avoir par ailleurs récolté aussi déjà 190 000 euros de dons. Le débat sur le projet de loi Blanquer au lendemain des manifestations organisées par les syndicats d'enseignants et la Fédération des parents d'élèves FCPE. 36 000 personnes dans les rues environ hier selon les chiffres du ministère. Le ministre de l'Éducation nationale dénonce à nouveau ce dimanche les intoxications et fausses informations dont ont été nourries selon lui les manifestants en répétant que non, les directeurs d'école ne sont pas menacés.
Ça a été une intoxication incroyable de... les deux dernières semaines. Bien entendu, les directeurs d'école ne sont pas menacés. C'est tout le contraire. Les positions que nous prenons ouvrent la voie à une reconsidération pour les directeurs d'école. Aujourd'hui, leur statut, justement, est trop faible. Et nous voulons, au contraire, renforcer les directeurs d'école et renforcer les écoles primaires rurales. C'est ce qui est un peu désolant dans cette mobilisation d'hier, si vous voulez, c'est qu'elle s'est basée sur la base d'intoxication donnée par certains. Donc, si vous voulez, ce qui est important en démocratie, c'est quand même que le débat se passe sur des informations justes. Et sur ces sujets-là, on a assisté à un festival de bobards, si vous me permettez l'expression, toute la semaine dernière.
Jean-Michel Blanquer, ce dimanche sur France Info.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
Une grand-messe au Maroc, à Rabat, célébrée par le pape. Le spectacle est cocasse dans un pays à 99% musulman. 10 000 fidèles, très majoritairement étrangers d'ailleurs, s'étaient rassemblés dans la cathédrale de la capitale marocaine où le souverain pontife est venu promouvoir le dialogue interreligieux en mettant en garde les chrétiens contre toute tentation de prosélytisme. Mathilde Lamberti à Rabat.
Le prêtre le plus âgé du Maroc se trouve dans l'assistance à la cathédrale de Rabat. Il aurait aimé se faire discret, mais il s'agit du frère Jean-Pierre, l'unique survivant de Tibérine, 95 ans aujourd'hui. Après le massacre, la communauté a cherché un second souffle dans l'Atlas marocain. Alors quand le pape François va le saluer chaleureusement, c'est toute la cathédrale qui s'émeut. Le pape François à l'aise au sein de cette toute petite communauté catholique du Maghreb. Il représente moins de 1% de la population. Le souci de l'autre doit nous caractériser, leur précise leur chef spirituel.
Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. Être chrétien, ce n'est pas adhérer à une doctrine, ni à un lieu de culte, ni à un groupe ethnique. Être chrétien, c'est une rencontre.
Dans le Maroc très pauvre de la périphérie de Rabat, le pape est allé remercier également des religieuses espagnoles qui tiennent un dispensaire tout simple et une école, saluer des enfants, une escapade marocaine parmi ses fidèles avant de retrouver Rome et les affaires vaticanes en soirée. À Rabat au Maroc, Mathilde Imberti, France Inter.
Si le vivre ensemble est toujours possible au Maroc, les catholiques y sont aujourd'hui 10 fois moins nombreux qu'avant l'indépendance. Des commémorations qui ne font pas l'unanimité au Brésil, où les militaires, à la demande du président Bolsonaro, célèbrent aujourd'hui le coup d'État du 31 mars 64, ce qui n'avait encore jamais été fait. Les appels à manifester se sont multipliés toute la semaine. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce matin à Brasilia. Elles devraient être beaucoup plus nombreuses dans les rues de Rio pour dénoncer cet hommage du président issu de l'extrême droite à ce qui fut une dictature, ce que d'ailleurs il conteste, Anne Vigna.
Bolsonaro l'a dit et répété cette semaine, il n'y a pas eu de coup d'état militaire au Brésil en 1964, sinon une révolution qui a évité que le pays ne devienne un régime communiste. L'affirmation pourrait faire sourire si elle ne venait d'un président qui a décidé de commémorer la date dans toutes les casernes du pays avec la lecture d'un texte qui nie le coup d'état militaire. Ce révisionnisme historique n'est pas du goût de tout le monde au Brésil. Depuis ces déclarations, les Brésiliens ont énormément échangé sur la dictature. Même le célèbre auteur Paulo Coelho a raconté pour la première fois la torture qu'il avait subie pour dire son opposition à cette commémoration voulue par le président. Les victimes de la dictature ont tenté devant la justice d'empêcher ces hommages. Mais en vain. Des manifestations sont donc organisées ce dimanche pour répudier les déclarations de Bolsonaro. Le mot d'ordre, c'était bien une dictature et il y a eu de la torture, histoire de remettre simplement les pendules à l'heure.
En Turquie, des élections municipales qui pourraient être riches d'enseignements sur la popularité du pouvoir, en tout cas du parti au pouvoir, l'AKP en difficulté dans les sondages, notamment à Ankara, à Istanbul. Si tel était le cas, non seulement le parti islamiste perdrait des mairies conquises il y a 25 ans, mais c'est surtout le mythe d'invincibilité dont jouit le président Erdogan auprès des Turcs qui en prendraient un coup. Des Turcs de plus en plus nombreux à subir les effets de la récession. Alexandre Billette à Istanbul.
Inflation, chômage, les Turcs subissent la crise et elle est de plus en plus forte. En période électorale, le pouvoir tente d'en amoindrir les effets, comme avec ses marchés subventionnés mis en place juste avant les élections par les mairies. Ici, les légumes sont moins chers alors que dans les commerces, certains produits ont connu des hausses de prix de 30%. Donc ce matin, les consommateurs font la queue et certains sont en colère.
Ça fait 2 heures que je fais la queue. On s'est accroché, j'en ai des bleus. On se plaignait de faire la queue avant. Et vous trouvez franchement que c'est mieux maintenant? C'est une honte et rien d'autre.
Avant, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP dans les années 90, quand l'inflation était incontrôlable. Pas une très bonne nouvelle pour Recep Tayyip Erdogan qui a bâti sa popularité justement sur l'amélioration du niveau de vie. Aujourd'hui, la capitale Ankara pourrait bien basculer du côté de l'opposition, à moins que ces mesures très électoralistes aient convaincu les Turcs de ne pas sanctionner trop lourdement le régime de Recep Tayyip Erdogan. Istanbul, Alexandre Billette, RFI pour France Inter.
En précisant que l'AKP, le parti d'Erdogan, a remporté toutes les élections depuis son arrivée au pouvoir en 2002. En Ukraine, c'est pour désigner le prochain président qu'on votait aujourd'hui sans certitude pour le sortant Petro Porochenko d'être reconduit. Il était à la traîne dans les derniers sondages, derrière un candidat sorti de nulle part, acteur vedette d'une série télé, et d'ailleurs en tête de ce premier tour. Tous les deux sont qualifiés pour le second tour. George Clooney fait des émules. Son appel à boycotter les palaces appartenant au sultan de Brunei a reçu le soutien du chanteur britannique Elton John, lequel a salué sur Twitter l'initiative de l'acteur américain contre la discrimination anti-gay et le sectarisme du richissime état pétrolier. Elton John ajoute avoir appliqué ce boycott des palaces de Brunei depuis longtemps déjà. En France, quand un éditeur repousse la publication d'un manuscrit qui pourtant lui plaisait, cas de conscience assurément pour les éditions du Seuil qui devaient sortir en octobre prochain le dernier roman de Cesare Battisti et qui finalement y renonce, au moins temporairement. L'ex-activiste de l'extrême gauche italienne arrêté en Bolivie en janvier et remis à la justice de son pays a reconnu cette semaine dans sa responsabilité dans 4 meurtres commis à la fin des années 70. Son livre est brillant, mais ce serait indécent de le publier maintenant, a dit à France Inter ce matin la responsable de la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil, Gwenaëlle Desnoyers.
Évidemment, ma première réaction quand j'ai vu ma notification du Monde s'afficher sur mon portable, je pense que ma mâchoire est un peu tombée, c'était forcément un choc. Non pas que je croyais en son innocence pure et parfaite, absolument pas. La question n'était pas de me positionner. J'en ai discuté avec le président du Seuil, Hugues Jallon, avec Adrien Bosque, en essayant de pas passionner le débat entre nous, de vraiment réfléchir à quelle décision il fallait prendre. Bon, et c'est évidemment imposé très vite, c'est-à-dire que l'heure pour Cesare Battisti n'est pas la littérature en ce moment. Je tiens à dire qu'avant tout, c'est un roman dont je suis tombée amoureuse. Je me garde la possibilité de peut-être publier ce roman si on trouve une période propice pour le faire. Je pense que les gens, le public, n'importe qui, moi aussi en premier lieu, on a envie d'entendre ce que Cesare Battisti a à dire sur ce qu'il a fait, pourquoi il a avoué, qui rendent des comptes peut-être aussi. Bon, c'est ça qu'on a besoin d'entendre de Cesare Battisti pour l'instant. On n'a pas envie de lire un roman de Cesare Battisti maintenant. Ce serait, je pense, un peu indécent.
Une interview recueillie par Ilana Moriousef. Un employé de la SNCF qui bloque le trafic des trains pendant près de 2 heures pour ne pas rater le sien. On aura tout vu, comme dirait sur France Inter Christine Masson et Laurent Delmas. L'agent indélicat placé en garde à vue serait à l'origine d'une fausse alerte à la bombe ce matin en gare de Rennes. Maxime Bossonnet.
Un peu avant 9h30, le trafic des trains est mis à l'arrêt. En cause, un appel qui prévient qu'une bombe est posée sous le pont Saint-Hélier en amont de la gare de Rennes. La police met rapidement en place un périmètre de sécurité. La gare n'est pas évacuée, mais 9 trains sont immobilisés, ainsi que 300 voyageurs. Au final, les doutes sont rapidement levés, pas d'engin explosif sur place et la situation revient à la normale dès 11h. Les policiers retracent l'appel malveillant. Il s'avère qu'il a été passé par un agent de la SNCF. Motif de cette fausse alerte, il ne voulait pas rater son train. Si l'homme est mis en cause, la SNCF a d'ores et déjà annoncé qu'il y aura une enquête interne. Le suspect risque quant à lui une peine très lourde, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Sur les routes du dimanche soir, c'est comme à Rennes ce matin pour les trains. Adèle Bossard, des perturbations en région parisienne?
Oui, il y a une demi-heure de bouchon actuellement au péage de Mantes-la-Ville en direction de Paris quand vous arrivez de la Normandie. Au sud-est de Paris, vous êtes ralenti sur la francilienne extérieure à cause d'un accident à l'entrée de Brie-Comte-Robert. La voie de droite est neutralisée. Et au nord-est, vous êtes ralenti à hauteur d'Aulnay-sous-Bois en direction de Paris. Là aussi à cause d'un accident et la voie de droite est également neutralisée. Des ralentissements également sur l'autoroute A7, juste avant Valence, dans le sens sud-nord. Vous ne roulez plus que sur 2 voies au lieu de 3 habituellement à cause d'un accident. Et puis sur la rocade nord de Bordeaux, vous mettez toujours 20 minutes à faire 4 km après un accident en extérieur au niveau de la bretelle de sortie numéro 5.
Adèle Bossard, OPC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, changement de mois et changement des conditions météorologiques. Il faudra ressortir les parapluies sur la partie ouest du pays. Les températures vont malgré tout rester confortables, proches de 1 degré en fin de nuit sur le Nivernais, déjà de 4 à 8 ailleurs. L'après-midi, comme ces derniers jours, la moyenne sur le pays sera de 20 degrés, des températures qui vont commencer à fléchir à partir de mardi. Pour cette journée de lundi, les conditions vont rester clémentes au nord de la Seine et le long des frontières de l'Est, mais le ciel sera quand même assez voilé en fin de journée, tandis que plus à l'ouest, les pluies arrivant d'Espagne vont franchir les Pyrénées, ensuite gagner rapidement le matin le quart sud-ouest, puis l'après-midi le Poitou-Charentes, le centre, le bassin parisien et la vallée de la Loire. Notez que quelques pluies vont également survoler la Bretagne et la Basse-Normandie en seconde partie de journée.
19h17, on passe au sport. Avec vous Vincent Pellegrini, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Et on commence par le rugby, bien sûr, c'était un choc très attendu. Et c'est le Stade Toulousain qui en est sorti vainqueur face au Racing Toulouse qui jouera donc les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby.
Succès d'un tout petit point 22-21 au terme d'un match d'une grande intensité et au bout du suspense, Jérôme Val.
Pas une pluie d'essai comme on pouvait l'espérer, pas de score fleuve comme les statistiques le laissaient présager, mais ce quart de finale a été haletant, tendu, très intense et pas avare en rebondissement. Toulouse a une nouvelle fois fait tomber le Racing 92 sur sa pelouse synthétique. Malgré le carton rouge direct contre son ouvreur australien Zach Holmes, dès la 23e minute de jeu pour un plaquage dangereux, une infériorité numérique qui n'a pas empêché le quadruple vainqueur de cette Coupe d'Europe de prendre le score à son avantage. 19-10 à la pause avec 3 essais marqués dont un doublé d'Antoine Dupont, jeune demi de mêlée international. Un écart grignoté petit à petit par le Racing 92 qui vient échouer à un petit point malgré les assauts en fin de match. Il suffisait de voir la mine déconfite des joueurs franciliens au coup de sifflet final. Cette Coupe d'Europe, c'était la priorité de leur saison. Il ne leur reste plus que le top 14, contrairement à Toulouse qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, une première depuis 2011. À l'Arena de Paris La Défense, Jérôme Val, France Inter.
Et en demi-finale, les Toulousains joueront contre les champions d'Europe en titre, les Irlandais du Leinster. Demi-finale programmée les 20 et 21 avril. L'autre demi-finale opposera les Anglais, les Saracens, aux Irlandais du Munster. En challenge européen, La Rochelle s'est qualifiée pour les demi-finales en battant les Anglais de Bristol. Et les Clermont vient de débuter son match face à une autre équipe anglaise, Northampton.
La 30e journée de Ligue 1 de football, 4 rencontres au programme cet après-midi.
Et Lille vient de s'imposer à Nantes 3-2. Les Lillois qui étaient pourtant menés 2-0. Lille deuxième du classement avec 4 points d'avance sur Lyon. Et puis Caen a créé la surprise en s'imposant à Monaco 1-0. Dominique Poulain.
L'arrivée de Roland Courbis aux côtés de Fabien Mercadal commence à avoir les effets escomptés. Quand s'impose à Monaco 1-0, un but de Crivelli à la 23e minute sur la première occasion du Stade Malherbe qui peut remercier son gardien Brice Samba, auteur d'arrêts réflexes ou de parades sur des frappes de Jovetic, Martins, Glick et Aoulou. Les Canets qui n'avaient plus gagné depuis le 18 décembre, soit 11 matchs sans le moindre succès, quitte la place de lanterne rouge pour occuper provisoirement la place de barragiste. Monaco, de son côté, connaît un coup d'arrêt. Monaco resté sur 7 matchs sans défaite. Les absences de Fabregas, Silva et Balotouré ont sans doute été préjudiciables. Monaco concède sa première défaite en Ligue 1 depuis le retour sur le banc fin janvier de Leonardo Jardim. Monaco, Dominique Poulain, France Inter.
Amiens-Bordeaux 0-0 et victoire de Nice à Dijon 1-0. Dijon qui est la nouvelle lanterne rouge de ce championnat de Ligue 1. Demain soir à suivre Saint-Étienne-Nîmes. Et puis hier soir, l'OM a perdu des points précieux dans la course au podium en concédant le nul à domicile face à Angers, 2-2.
Et puis l'affiche de cette 30e journée, c'est ce soir, Toulouse-PSG.
Les Toulousains 14e du classement face au leader incontesté de cette Ligue 1. Bonsoir Alain Gastal.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct du Stadium de Toulouse. Alors en général, quand le PSG se déplace, les stades sont pleins. Ce ne sera pas le cas ce soir à Toulouse et il y a une raison à cela.
Eh oui, la faute au prix des places, Vincent. 70 euros pour les moins chères d'entre elles derrière les buts, c'est-à-dire plus de 50% d'augmentation en un an par rapport au Toulouse PSG de l'an passé. Et du coup, le principal groupe de supporters, les Indians, a décidé tout simplement de faire la grève des animations pour ce match. Il est vrai que les résultats de Toulouse sont désespérément médiocres. Il faut dire aussi qu'il va manquer du monde ce soir à Paris pour ce match qui est un peu pris en tenaille entre les rendez-vous internationaux et la demi-finale de Coupe de France contre Nantes mercredi que les Parisiens ne veulent pas laisser filer comme ils ont déjà laissé filer leur Coupe de la Ligue. Pas de Neymar donc ce soir, pas de Cavani non plus, pas de Di Maria, pas de Draxler, pas de Dani Alves ni de Meunier a priori. Ils sont tous plus ou moins blessés ou peut-être ménagés dans un match, il est vrai, dont on cherche un peu l'enjeu. Alors on va dire qu'en cas de victoire, Paris sera à 2 points du titre, que les Parisiens pourraient donc décrocher dans une semaine au Parc face à Strasbourg, ça a de la gueule. Et puis il y a la chasse au record qui est engagée, plus grand nombre de buts, plus grand nombre de points et puis la barre, pourquoi pas des 100 points que les Parisiens pourraient dépasser, ce qui permettrait de faire rentrer cette saison dans la petite histoire de la Ligue 1.
Merci Alain Gastal en direct de Toulouse. Coup d'envoi donc de ce Toulouse-PSG à 21h. Un résultat de Ligue 2, mais ça fait un nouveau pas vers la remontée en Ligue 1. Les Messins se sont imposés cet après-midi à domicile face à Lorient 2-1. Ils possèdent 8 points d'avance sur Brest dans ce championnat de Ligue 2.
Et pendant ce temps, les Bleus de Strasbourg fêtent avec leurs supporters leur victoire d'hier soir en Coupe de la Ligue.
Ah oui, les hommes de l'entraîneur Thierry Loret ont battu l'en avant Guingamp à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Le score, on le rappelle, était de 0-0. À l'issue des prolongations. Cette rencontre qui s'est disputée au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Alors ce succès strasbourgeois vient couronner un parcours remarquable dans cette épreuve. Les Alsaciens y ont éliminé Lille, Marseille, Lyon et Bordeaux. C'est la 3e Coupe de la Ligue pour le Racing qui évoluait en 5e division il y a seulement 7 ans. Alors vous le disiez Yves, c'est la fête aujourd'hui dans la capitale alsacienne où nous retrouvons en direct Lucille Guillotin. Bonsoir Lucille.
Bonsoir Vincent.
Et c'est une ville en liesse ce soir.
Ouais, des cotillons bleus et blancs qui tapissent la place Kléber, plusieurs milliers de supporters qui acclament leur héros. Un engouement toujours de plus en plus fort hein, autour du Racing Club de Strasbourg. Voilà comment on pourrait résumer l'ambiance cet après-midi place Kléber. Certains supporters avaient encore les yeux qui piquent. Ils sont partis très tôt ce matin de Lille pour rejoindre la capitale alsacienne. Les joueurs de Thierry Loret ont été accueillis comme des princes à l'image du défenseur Kenny Lala, le Kylian Mbappé du Racing acclamé tel une rockstar. Le capitaine Stefan Mitrovic a été le dernier à monter sur scène pour brandir le trophée de la Coupe de la Ligue. Ce trophée est vécu comme une renaissance pour le peuple alsacien. Le club a failli disparaître il y a 8 ans, tombé dans les bas-fonds en CFA2 en 5e division. Il est reparti d'une feuille blanche et les supporters n'ont jamais lâché leur Racing. Ils sont encore 19 000 abonnés effectivement à la Méno cette saison, avec un taux de remplissage du stade de 96%, le deuxième taux derrière le PSG. Et cette victoire en Coupe de la Ligue démontre bien que Strasbourg est redevenu une place forte du football français.
Et ils étaient, Lucille, pas loin de 30 000 hier à Villeneuve-d'Ascq. Hein.
Exactement, 30 000, quasiment les trois quarts du stade Pierre-Mauroy.
Merci Lucille Guillotin de France Bleu Alsace en direct de Strasbourg. Et bien, les supporters strasbourgeois pourront prolonger la fête parce que mercredi soir, Strasbourg jouera face à Reims, le match en retard forcément de cette 30e journée de Ligue 1.
Le championnat du monde des rallyes avec le Belge Thierry Neuville qui s'est montré le plus rapide ce week-end sur les routes du Tour de Corse.
Oui, cette quatrième manche du championnat du monde des rallyes a offert un scénario à suspense avec la crevaison du leader le gallois Elfyn Evans dans les tout derniers kilomètres. À l'arrivée donc à la mi-journée près de la citadelle de Calvi, Thierry Neuville a devancé le français Sébastien Ogier qui avait pourtant connu un début de course très délicat. Envoyé spécial de France Inter sur l'île de Beauté, Jean-Pierre Blimont.
Deux victoires dans les trois premiers rallyes de la saison permettaient à Sébastien Ogier d'espérer légitimement un troisième succès en quatre ans sur ce Tour de Corse. La première spéciale de vendredi, la vitre refroidie, un tête-à-queue lui a d'abord fait perdre beaucoup de temps. Et puis il y a eu ces problèmes de réglage assez inattendus sur une Citroën C3, restée problématique jusqu'à la fin. Remonté à la troisième place hier, finalement deuxième après la crevaison d'Elfyn Evans, Sébastien Ogier retient du positif après ce Tour de Corse, mais reste lucide.
On retient que c'est un bon résultat au niveau des points, mais qu'au niveau de la performance, il y a du boulot.
La crevaison d'Evans n'a pas seulement favorisé le Français, devant lui le Belge Thierry Neuville remporte donc le Tour de Corse qu'il croyait perdu après la première spéciale de la matinée.
C'est toujours difficile après une première spéciale comme celle du matin où on perd autant de temps. On y croyait moins, mais voilà, l'effet de course en fait qu'on a réussi à gagner. On voit qu'on a fait des progrès sur asphalte.
Neuville devant Ogier dans ce Tour de Corse. Le Belge devance également le Français au classement général du championnat du monde. Un mal pour un bien, Sébastien Ogier ne sera pas obligé d'ouvrir la route sur les terres argentines pour la cinquième manche.
Un peu plus de chance en Argentine de bien faire pour une fois, à pas partir devant, donc c'est la bonne nouvelle du jour aussi, mais tout est très très serré au niveau du championnat.
Tellement serré que Thierry Neuville ne devance Sébastien Ogier que de 2 points. L'ancien leader Ott Tänak est désormais 3e à 3 points du Français. L'Estonien lui aussi victime d'une cruelle crevaison finit 6e du Tour de Corse. Calvi, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Voilà, le prochain rallye, Jean-Pierre le disait, c'est en Argentine dans un mois. Sport automobile, toujours le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, deuxième manche du championnat du monde. Il vient de s'achever, doublé Mercedes comme en Australie il y a 2 semaines, mais cette fois c'est Lewis Hamilton, le champion du monde en titre, qui a devancé son coéquipier Valtteri Bottas. Le jeune pilote Ferrari, le monégasque Charles Leclerc, faisait la course en tête avant d'être victime d'un problème moteur. Il termine finalement 3e devant Max Verstappen et son coéquipier chez Ferrari, Sébastien Vettel. Prochain Grand Prix en Chine dans 2 semaines.
En tennis, l'inusable Roger Federer en quête d'un nouveau titre, un énième titre ce soir à Miami.
À 37 ans, le Suisse continue d'affoler les compteurs et d'aligner les chiffres qui donnent le vertige. Il vise aujourd'hui le 101e titre de sa carrière à l'occasion de sa 50e finale d'un tournoi Masters 1000. C'est la catégorie de tournoi la plus élevée après ceux du Grand Chelem. Roger Federer sera face au géant américain John Isner, 2,08 m au service surpuissant et tenant du titre à Miami. Federer sait qu'il devra batailler.
John, c'est toujours énormément serré les parties. Moi, j'aime bien jouer contre lui parce que c'est un grand challenge de pouvoir retourner ce genre de service parce qu'il est quand même deux meilleurs serveurs sur le tour avec Karlovic. Et ça depuis méga longtemps. Et dès le début, j'ai vu qu'il avait des capacités incroyables avec la puissance et le service. Et c'est exactement ce qu'il va de nouveau faire. En tout cas, c'est sympa, oui. Et lui, il essaie de défendre son titre. Et de ma part, voilà, c'est vrai que j'ai gagné en 2017. Alors j'espère de faire une bonne finale et un bon match. Il faudrait parce qu'on sait qu'il donne très peu. Alors dans les moments importants, il faut jouer le mieux et espérer un peu quand même.
Voilà, Roger Federer face à John Isner, finale de ce tournoi Masters 1000 de Miami. Du cyclisme, le Norvégien Alexander Kristoff a remporté aujourd'hui la classique Gand-Wevelgem. Il a devancé au sprint l'Allemand John Degenkolb et le Belge Olivier Neyssen. C'était un peu une répétition générale avant la grande classique, le Tour des Flandres, dimanche prochain.
Allez Vincent, l'événement est passé inaperçu en France, mais aux États-Unis, il a fait la une de la presse. Le championnat professionnel de baseball a repris jeudi soir.
Oui, les Red Sox de Boston sont les champions en titre. Alors en France aussi, le championnat de baseball de Division 1 vient de reprendre. 16 équipes y participent. Le baseball ne fait pas partie des sports additionnels retenus pour les JO de Paris en 2024. Une décision très mal vécue par les 15 000 licenciés français. Au Paris Université Club, le plus ancien et le plus titré des clubs de l'Hexagone, la déception est vive. Le reportage de Thibaut Duclos.
Au cœur du bois de Vincennes, aucun des 250 membres du PUC n'a encore digéré. Jamel Boutagra,
entraîneur et ancien joueur.
Une énorme déception parce que je pense que le dossier de la fédération était assez solide, assez ficelé. Je pensais vraiment que le baseball français allait en bénéficier. Et c'est vrai qu'on n'a pas compris. Le pire, c'est qu'on est prêt à Tokyo et qu'on sera prêt à Los Angeles. On est entre deux JO qui vont accueillir le baseball. Ça va être un super spectacle. De toute façon, vous verrez bien à Tokyo.
Ici, la plupart des joueurs sont binationaux. Américains, japonais ou polonais, ils ont découvert le baseball ailleurs qu'en France. Et tous veulent croire à son retour au programme olympique de Los Angeles en 2028. Cheikh Fani, entraîneur des moins de 12 ans.
C'est impossible de faire JO aux États-Unis sans baseball. Mon but, c'est que ces jeunes-là aient une chance de représenter la France dans 9 ans. Les joueurs qu'on forme sont régulièrement en équipe de France ou dans les pôles France. Donc oui, il y a de très fortes chances que certains de nos joueurs jouent en équipe de France plus tard. Eux, à leur âge-là, ils n'y pensent pas du tout. Leur but, c'est de performer. Ils ne pensent pas tout de suite aux JO. C'est beaucoup trop loin pour eux.
5 de ces élèves sont déjà en équipe de France. Collégiens, aujourd'hui, ils auront atteint l'âge adulte pour le rendez-vous de Los Angeles.
Voilà, vous l'avez entendu, ce baseball sera donc au programme des JO de Tokyo. C'est un sport très très populaire au Japon.
C'était le journal des sports de Vincent Pellegrini. Merci à 8h05, l'as-tu lu mon petit loup, Denis Chessou bien sûr. Tout de suite Noël Bréham, les petits bateaux, bonne soirée.